Radio Kapi. Oh, Kapi. À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
Tu ne tueras point, sois le gardien de ton frère. C'est l'exhortation des prélats catholiques de la RDC, du Rwanda et du Burundi aux habitants de la sous-région des Grands Lacs, allusion faite à l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Ces évêques clôturaient ce week-end à Kinshasa leur assemblée générale. Reprise effective du transport fluvial dès ce lundi, annonce la SCTP ex-Onatra. C'est après plusieurs années d'interruption entre Kinshasa-Brazzaville, Kinshasa-Mbandaka et Kinshasa-Kisangani. Confirmation du sous-directeur du département des ports et trafic fluvial, vous l'entendrez. Et puis, l'invité de ce matin, Jason Stills, directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Il s'exprime sur les enjeux des négociations récentes de Luanda entre la RDC et le Rwanda sous la direction du président angolais. Madame, Messieurs, bonjour. Les prélats catholiques de la RDC, du Rwanda et du Burundi s'engagent à œuvrer pour la paix et l'unité des peuples de la sous-région des Grands Lacs. Ils projettent d'organiser le 31 juillet prochain dans leur diocèse respectif une eucharistie sur cet objectif. Ils l'ont signifié à l'issue de leur assemblée générale clôturée ce week-end au centre Caritas à Kinshasa. Tu ne tueras point, sois le gardien de ton frère. C'est l'exhortation faite par les évêques de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale aux habitants de la sous région des Grands Lacs, ce au terme de leurs travaux. On écoute le secrétaire général de l'ACEAC qui résume les recommandations et engagements pris. L'abbé Jean-Pierre Badidike est au micro de Jeff Ngoy.
Aux habitants de toute la région de Grand Lac, de se désolidariser, prendre distance de tout mouvement de sédition et de tout geste d'hommage à l'exclusion et à la loi de la violence. Aux tenants des titres, des propriétés des mouvements armés, mais aussi à leurs mandants, les tireurs de ficelles, de trouver d'autres voies nobles de résolution des conflits que de recourir à la loi d'extermination, à la guerre et au massacre des innocents. Aux décideurs politique, de conjuguer les efforts et les énergies pour construire un vivre ensemble harmonieux et développer le discours de la paix, de la concorde, de l'unité. Ils s'engagent à continuer à travailler à l'œuvre de la construction, consolidation de la paix. Ils ont développé des stratégies pour que tous les aspects qui concernent la construction globale, harmonieuse de la paix dans la sous-région soient envisagés.
Entre-temps, au Nord Kivu, les affrontements entre les FARDC et le M23, devenus récurrents et imprévisibles dans cette région, ont provoqué des déplacements des populations dans tous les sens. Selon la société civile, à ce jour, au moins 2600 ménages en provenance de Ntamugenga et Buseke sont déjà identifiés à Buhuri et le processus continue. Côté Rumangabo, dans le groupement Kisigari, c'est au moins 5 villages qui se sont vidés, d'après un responsable coutumier. L'enregistrement de ces déplacés s'est fait à Buvunga, Katale et au petit monument de Rumangabo, affirme cette autorité locale. Toutes ces populations vivent dans la précarité, dans les écoles, les églises et sans assistance. Témoignage d'un habitant qui a requis l'anonymat.
Conjointement à ce combat, signalons que des milliers de déplacés de guerre sont cantonnés en Tamugenga centre où la plupart est concentrée à Buhuri dans le groupement de Kisigari où leurs vies sont en difficulté tenant compte de leur effectif qui dépasse le niveau. Ils n'ont pas accès à la santé car les responsables des différentes structures sanitaires annoncent l'insuffisance des médicaments mais également le nombre de toilettes et bornes-fontaines sont moins nombreux mais aussi la nourriture est un besoin urgent à cette population souffrante. Nous demandons alors aux autorités, à la Commission nationale pour les réfugiés et bien d'autres humanitaires de venir en aide urgemment à ces paisibles citoyens.
Nord Kivu toujours, la lutte contre la circulation des armes légères et de petits calibres ALPC fait encore face à d'énormes défis. C'est entre autres la mégestion observée dans les dépôts des munitions, la porosité des frontières, la présence des groupes armés, mais aussi les défections des militaires qui partent avec armes et munitions. Constat fait samedi à Goma par la synergie des luttes anti-mines SILAM, l'un des acteurs majeurs du domaine. C'était à l'occasion de la journée internationale de destruction des armes légères et de petits calibres, journée célébrée le 9 juillet de chaque année. Dans une déclaration, Marion Gavo, coordonnateur national de cette ONG, salue tout de même des actions menées par la Commission nationale de contrôle des ALPC. Il est au micro de Sifa Maguru.
Il y a eu plus de 20 923 armées sécurisées. Il y a eu plus de 1658 armées détruites, défectueuses, au nord Kivu, au sud Kivu, en Ituri et le Congo central. Ces armes sont provenues de la MONUSCO, c'est-à-dire retirées auprès des groupes armés, mais aussi sont venues des dépôts de la PNC et des FARDC. Il y a eu aussi 952 coffres forts installés au bénéfice de l'ICSN, qui est l'Institut congolais de la conservation de la nature, les FARDC, mais aussi la PNC. Il y a eu 8 armureries qui ont été construites, plus de 8000 officiers des forces de sécurité congolaises ont été formés dans la gestion des ALPC et, pour noter enfin, depuis le 6 janvier 2019 à ce jour, nous avons eu 7000 armes de la PNC et des FARDC qui ont été marquées, ça veut dire sur lesquelles on a mis les numéros pour être identifiés.
Le coordonnateur national de SILAM déplore les conséquences dues à cette prolifération d'armes, notamment la persistance de la criminalité dans l'est de la RDC, l'enrôlement et exploitation des enfants, le pillage des ressources et bien d'autres. Par ailleurs, la coordination provinciale de la société civile s'est dit préoccupée par la décision de la FEC Boutembo Lubero suspendant les opérations d'importation et d'exportation des marchandises via la frontière de Mpondu et Kasindi à cause de la persistance de l'insécurité. Dans une déclaration faite à la presse samedi à Boutembo, Edgar Mateso, vice-président de cette structure citoyenne, appelle le gouvernement congolais à traiter cette situation avec une attention particulière au regard des éventuelles conséquences économiques dans la région de Boutembo au Béni. Edgar Mateso, dans ses propos sélectionnés par Grace Amzati.
Il est vrai que les conséquences seront douloureuses parce que certainement il y aura non seulement flambée de prix, il y aura d'ailleurs rareté des produits de première nécessité. Mais nous estimons que les commerçants n'avaient pas autre choix que de faire ça. Et aujourd'hui, les commerçants qui osent importer ou exporter trouvent leurs marchandises calcinées. Et s'ils osent sauver une partie, ils vont subir des surtaxations. Tous les services d'assiette affluent vers le peu de marchandises qui sont sauvées de ces feux. Et donc, avec cette asphyxie économique, les commerçants n'avaient autre choix que de suspendre. Mais allez-y comprendre que c'est cette pauvre population, les derniers consommateurs, qui sont maintenant sacrifiés parce que n'ayant pas autre moyen de s'approvisionner. Nous voudrions que le gouvernement congolais, toutes les institutions puissent s'impliquer dans la recherche de la solution. Et la recherche de la solution, c'est la pacification et la sécurisation du tronçon qui approvisionne la partie nord.
En plus bref, sachez qu'une délégation du Conseil consultatif pour les femmes, paix et sécurité pour les Grands Lacs arrive ce lundi à Kinshasa. Il s'agit d'une mission conjointe de plaidoyer de haut niveau en RDC qui ira jusqu'au samedi 16 juillet prochain. À l'agenda de la délégation, il est prévu entre autres les rencontres avec les autorités nationales du pays, notamment le président de la République, le premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement. Je vous le disais en titre, la Société congolaise des transports et ports SCTPX Onatra annonce la reprise effective du transport fluvial à partir de ce lundi 11 juillet 2022. C'est après plusieurs années d'interruption entre Kinshasa-Brazzaville, Kinshasa-Mbandaka et Kinshasa-Kisangani. La confirmation a été faite samedi à Kinshasa au cours d'un point de presse par le sous-directeur du département des ports et trafic fluvial, Armand Ossassé, qui demande l'appui du gouvernement pour atteindre le Kasaï et le Sankoro dans un proche avenir, précise que ce trafic sera rendu possible grâce à la réhabilitation par la SCTP de ses bateaux MB Lubero et MB Nunungu. Armand Ossassé explique dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Les activités commencent parce que les soucis qui animent le chef de l'État, aussi bien le gouvernement de la République et l'actuelle direction générale, c'est la relance de la SCTP. Et ça commence donc à partir de lundi. Bon, je vous rassure, la reprise des trafics Kinshasa-Brazzaville avec barge cargo, Kinshasa-Kisangani avec MB Lubero et nous avons MB Lunungu, toujours Mbandaka-Kisangani, nous avons deux MB bateaux, c'est-à-dire MB Lubero pour Kisangani, MB Lunungu pour Mbandaka à partir de lundi. Et nos bureaux sont ouverts. Je demande à tous nos clients de nous visiter et à un bon prix. Et donc, un prix gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, nous avons pour Mbandaka, par exemple, des barges cargo. Et pour Kisangani, nous avons encore des barges à cargo et plus barges passagers. Et nous avons les barges cargo pour les marchandises. J'ai fait un appel pathétique, un appel de mobilisation à tous les commerçants, tant de Kinshasa, de Brazzaville, parce que à partir de lundi, nous sommes prêts.
Autre nouvelle, depuis le 20 juin 2022 et à travers un communiqué officiel, Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo a placé sous administration provisoire la banque Afriland First Bank Congo. Le conseil d'administration et la direction générale de cette banque sont dessaisis de leur pouvoir de gestion, a intimé la Banque centrale dans la note au public diffusée le même 20 juin. Un comité d'administration provisoire composé d'un président et 6 membres a été chargé d'assurer la gestion courante de la banque et de présenter dans un délai de 180 jours, un plan de redressement, peut-on encore lire dans le communiqué. Mais comment en est-on arrivé là? Radio Okapi vous propose une série de reportages consacrés à la crise qui prévaut au sein de cette banque, la 7e sur la 15aine des banques que compte la RDC. Pour commencer, remontons le fil des temps avec vous, Daniel Tambinzoni.
En 2021, la plateforme africaine des lanceurs d'alerte hausse le ton, soutenue par Navi Malela, alors contrôleur permanent à Afriland First Bank Congo, que des opérations criminelles, notamment le blanchiment de capitaux, se faisaient dans la banque. Pour Navi Malela, ces opérations pas correctes ont commencé en début 2018, lorsque Dan Gertler a commencé à fréquenter la banque pendant que pesaient sur lui les sanctions américaines. Cet épisode se termine par la condamnation des lanceurs d'alerte. Navi Malela et son chef d'audit à Afriland quittent le pays pour l'exil. Toujours en 2021, le 1er juillet, le président du conseil d'administration d'Afriland First Bank Congo suspend à titre conservatoire le directeur général en place après dénonciation par le commissaire au compte d'un détournement $1 million. Par la même décision, le conseil d'administration désavoue le directeur général adjoint et demande à la Banque centrale du Congo de lui retirer l'agrément. La réponse de la Banque centrale du Congo tombe 24 heures après. L'autorité de régulation, alors dirigée par Déogratias Mutombo Mwananyimbo, s'oppose et annule la décision du président du conseil d'administration et lui retire même l'agrément. En début août 2021, Mme Malangu Kabedimboui est nommée en remplacement de Déogratias Mutombo à la tête de la Banque centrale du Congo. Elle institue le 26 août, selon la documentation en notre possession, une mission de surveillance rapprochée de Afriland First Bank Congo. Objectif, aider la banque à résoudre ses failles de gouvernance.
Direction Matadi. Ici, nous apprenons que le prix d'un balai fabriqué à l'aide des feuilles de palmier à huile pour le nettoyage du sol passe de 500 francs à 1000 francs. Cet ustensile de ménage provenant du district du Bas-Fleuve n'est plus à la portée de tous les ménages et certains se le partagent suite à sa rareté. C'est un reportage de Nana Plurich Mambou.
Les balais fabriqués à base de feuilles de palmier à huile, Kombo en Lingala et Kikombo Swaki Kongo, est un ustensile de ménage servant à débarrasser les sols de la poussière et des ordures. Cet instrument devient rare et cher à Matadi. À ces jours, pour s'en procurer, il faut aller vers les grands centres de négoces dont Voidou, Damar et le marché Minkondo. Cette ménagère trouvée en train de demander un balai chez les voisins peut le témoigner.
Les
vendeurs ambulants des balais ne passent. Je n'ai pas le temps d'aller au grand marché. Donc ça fait une semaine que j'emprunte les balais auprès de la voisine. Au parking, dit les copains en voie d'où déchargent les véhicules transportant des bouquets de balais, les commerçants attribuent cette hausse au mauvais état des routes. Les balais est devenu cher parce que les prix de transport a flambé. C'est pourquoi nous les vendons aussi à 1000 francs. Que les autorités réhabilitent les routes. Il y a beaucoup de produits dans le village, mais l'évacuation problème. Il faut signaler d'ailleurs que pour un bon balayage, il faut assembler 2 bouquets de balais de 1000 francs puisque les revendeurs qui n'ont besoin de rien d'autre que d'une boîte de tomates concentrées diminuent le volume de ces bouquets de balais en lui soutirant de quelques tiges. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Province du Kwilu, plus de 100 agents du service de contrôle et de paix des enseignants Sécopé de la province éducationnelle Kwilu 2, dont le siège se trouve dans la ville de Kikwit, montent au créneau pour demander au gouvernement congolais leur réactivation sans condition dans les listings de paix. Dans un entretien le 9 juillet, ils ont fait savoir que c'est depuis juillet 2021 qu'ils ont vu leur nom être coupé de ce fichier de paix sans raison valable. Pour eux, la réactivation de leur nom serait une action salvatrice pour leur ménage qui souffre en ce moment. Irène Boma.
Ils sont au total 144 agents du Sekope Kwiludé qui sont concernés par cette situation. Ces enseignants assis précisent qu'ils ont totalisé aujourd'hui 13 mois depuis qu'ils ne reçoivent plus leur salaire d'État qu'ils touchaient bel et bien auparavant. État des choses qui, selon eux, rend très difficile la survie de leur famille. C'est comme ça qu'ils lancent un SOS auprès du gouvernement congolais afin de les rétablir dans leurs droits. Gingama, agent à l'antenne du Sekope Kikwitroa, est l'une de ces personnes désactivées de listing des pays.
Les parents que nous sommes des responsables, il y a des enfants qu'on doit scolariser. Qu'est-ce que le gouvernement change sur nous? Surtout notre directeur national Sekope, ainsi que le ministre de tutelle, qu'on nous remet à nos droits.
Préoccupé, le président de l'intersyndicale des enseignants du Kwiludé, Benoît Kassiama, annonce que des décisions seront prises pour des actions à mener face à cette situation.
Nous avons beaucoup parlé, on ne peut pas nous comprendre. Nous avons dit, bon, terminons l'année et nous allons prendre des décisions pour voir ce que nous devons faire pour la prochaine année.
Pour Benoît Kassiama, le gouvernement congolais ne mérite plus la confiance des enseignants à cause des multiples promesses non réalisées. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la campagne pour les élections législatives du 31 juillet a officiellement commencé hier pour 21 jours. Un début calme et timide car ce jour coïncidait avec la fête de la Tabaski dans ce pays à 95% musulmans. Mais les différents camps politiques n'ont pas manqué de prendre la parole pour marquer le coup d'envoi de la compétition électorale. Guerre en Ukraine. Après la prise de la province de Luhansk, les forces russes contrôlent désormais plus de 20% du sol ukrainien. Elles concentrent désormais leur offensive à l'est dans la région voisine de Donetsk. Alors que la conférence internationale de Lugano en Suisse se poursuit pour préparer la reconstruction de l'Ukraine.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Jason Stearns, directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Il est aussi ancien coordonnateur du groupe d'experts de l'ONU en RDC. Il s'exprime sur les enjeux des négociations de Luanda débutées la semaine dernière entre la RDC et le Rwanda sous la direction du président angolais João Lourenço. Jason Stearns s'entretient avec Alain Rongmoshing.
Jason Stearns, bonjour. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont convenu la semaine dernière à Luanda d'un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Le M23 dit ne pas être concerné par ce cessez-le-feu. Qu'en pensez-vous?
Tout d'abord, c'est pas seulement l'M23 qui dit qu'ils ne sont pas concernés par le cessez-le-feu. Le gouvernement rwandais aussi a clarifié qu'ils n'ont pas signé un cessez-le-feu à Luanda. Il s'agit seulement d'une feuille de route. Et je pense que c'est important parce que le Rwanda nie tout soutien à l'M23 et signer un cessez-le-feu, ça impliquerait que, implicitement, qu'ils avouent d'avoir soutenu l'M23. Et donc pour eux, ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est seulement une dénonciation de la violence et un désir que chacun se retire selon l'accord ou le processus de Nairobi à leur position d'auparavant. Je pense alors que le Rwanda ne va certainement pas avouer un soutien à l'M23. Je pense que le Rwanda va tout simplement dire qu'il dénonce la violence, mais pour eux c'est la violence de toutes parts. Ils dénoncent la violence du gouvernement congolais, ils dénoncent la violence de l'M23 et ils souhaitent un accord ou un issue politique, des accords politiques pour résoudre la situation actuelle. Et donc je ne pense pas certainement que ce soit un aval. C'est ça un peu la version du gouvernement congolais. Ils disent que la feuille de route de Luanda signale un aval implicite d'un soutien rwandais à l'M23. Ce n'est pas ça mon interprétation de la feuille de route. Ce que moi je vois dans la feuille de route, c'est surtout le gouvernement congolais qui a accepté les positions données par le Rwanda dans la dénonciation de la haine, le retour des réfugiés congolais qui sont au Rwanda, la dénonciation de toute collaboration avec l'FDLR, etc. Et donc je n'y vois pas un aval implicite d'un soutien à l'M23, pas du tout.
Comment la RDC peut-elle capitaliser cette avancée pour faire cesser tout soutien au M23?
La feuille de route, pour moi, ce n'est rien de nouveau. Donc tout ce qui est inclus dans la feuille de route, tous les points de la feuille de route sont les positions d'auparavant, sont les positions qui sont données depuis très longtemps, surtout du côté rwandais. Donc c'est-à-dire que chaque fois, le Rwanda insiste beaucoup sur la légitimité des griefs de l'M23, même s'ils ne disent pas qu'ils soutiennent l'M23, notamment la présence des réfugiés congolais, surtout des Tutsis, qui sont au Rwanda, qui doivent rentrer en RDC, surtout aussi la collaboration avec l'FTLR, etc. Donc, pour moi, les positions données dans la feuille de route ne sont pas du tout surprenantes. Je pense que l'atout, surtout qui existe dans le processus de Nairobi comme dans le processus de Luanda, c'est un atout diplomatique. C'est-à-dire, les deux processus impliquent deux pouvoirs régionaux, notamment l'Angola et le Kenya, qui peuvent peser sur les différentes parties dans le conflit, surtout le Rwanda. Et c'est ça, je pense, que la nouvelle donne. C'est-à-dire que l'implication du Kenya, qui a des intérêts économiques, surtout dans ce qui se passe à l'est du Congo, comme aussi l'Angola qui a des intérêts politiques, économiques aussi en RDC, ça pourrait aider, je pense, à résoudre la crise. Donc cette attention, cette implication de ces pouvoirs régionaux, c'est ça, je pense, le grand atout de la situation actuelle.
En quoi la feuille de route de Luanda peut-elle engager le M23 qui n'était pas parti à cette réunion et ne reconnaît un appui du Rwanda ?
Je pense que le grand travail qui se fera, ce n'est pas un travail qui se fera en public. C'est un travail derrière les coulisses, un travail politique de pression, surtout sur Kigali, un travail de recherche et d'investigation pour démontrer le soutien de Kigali, peut-être aussi de Kampala, pour la M23. Cette pression et ces investigations peuvent aider, je pense, à diminuer le pouvoir et la menace de la M23. Au même temps, je pense qu'il est important de ne pas oublier, je pense qu'on a la tendance d'oublier, que la raison pour laquelle Kinshasa fait face à maintes reprises à des rébellions à l'est du Congo, c'est à cause de sa propre faiblesse. Et donc, je pense qu'au même temps qu'on est en train de se focaliser très légitimement sur les menaces qui viennent de l'extérieur, il faut aussi regarder les propres faiblesses de l'armée congolaise. N'eût été, je pense, que ces faiblesses, on ne serait pas dans cette situation.
Jason Stearns, merci.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.